Alors, Romains 5, les versets 6 à 11, je vais les lire. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Il se peut que lorsqu'on lise ces lignes, surtout si on est chrétien depuis un certain temps ou si on connaît la Bible, ces paroles, on les lit et on dit, en quelque sorte, oui, bien sûr. Et on oublie à quel point ces paroles sont extraordinaires. Nous nous habituons peut-être trop à certaines vérités. C'est possible. Je dis, il se peut. Mais prenons quatre cas de figure. Pensons par exemple à quelqu'un, admettons, il y a un siècle, qui habitait en Amazonie, ou en Afrique, ou dans le sud-est asiatique, et qui passait toute sa vie à essayer de détourner la vengeance des esprits mauvais qu'il aurait froissés pour une raison ou pour une autre, avec toutes sortes de rituels, de prières aux ancêtres, de recours à toutes sortes de chamans ou de, on peut dire, de personnes qui auraient pu avoir une force spirituelle supérieure à ces esprits. Voilà, ces paroles-là qui parlent de Dieu qui nous aime, c'est extraordinaire. Prenons le cas, deuxièmement, d'un brave intellectuel du quartier latin à Paris, qui se lève le dimanche matin, qui prend son croissant et son café dans un des bistrots du coin, qui dit, j'ai entendu dans la bouche de quelqu'un, « Ah, mais vous dites que vous êtes croyant, moi aussi je suis croyant, je crois en l'homme. » Et qui écoute chaque matin les informations, qui lit le journal, qui va sur Internet, et qui est terriblement déçu parce que l'homme en qui il croit ne semble pas s'en sortir, et qui provoque tellement de problèmes dans notre monde de tous les côtés. Troisième cas de figure, et je crois que cela existe plus qu'on ne pense, le pratiquant d'une religion, et il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de pratiquants, qui pensent que la seule façon d'être en règle avec Dieu, c'est soit de ne jamais pécher, ou soit de se racheter soi-même en faisant toutes sortes d'actions, et qui s'enfonce de plus en plus, parce que plus cette personne cherche, si c'est une personne qui cherche sincèrement, plus cette personne cherche à être en règle avec Dieu, plus cette personne se rend compte qu'elle en est loin, et peut tomber soit dans deux travers, soit de réduire la loi de Dieu à ce qui est réalisable, Donc, c'est-à-dire, on va se donner quelques petites lois. Je fume pas, je bois pas, je donne pas mon sang. Enfin, je fais pas de transmission sanguine ou je passe quand même pour prendre mon buis juste avant Pâques. Enfin, plein de choses. Donc, on réduit en quelque sorte à ce qui est réalisable. Ou bien, on pense que les actions que l'on fait, que ce soit jeûner pendant un mois, que ce soit brûler des cierges, je ne sais pas quoi, a plus d'effet que cette personne espère en quelque sorte. Mais on est dans la religion. Ou bien, tout simplement, sans parler de tribus ou d'intellectuels ou de pratiquants d'une religion, la brave famille française typique qui ce matin s'est levée, avec toujours la même chose, en moyenne de 2,1 enfants ou je sais pas quoi, la petite maison, on va faire un petit peu de jogging ce matin, et on essaie de s'en sortir comme on peut, de s'acheter une voiture, de partir un peu en vacances, à faire en sorte que les enfants fassent quand même leurs devoirs en temps et en heure, et puis qui disent on aimerait quand même transmettre des valeurs à nos enfants, mais quelles valeurs? Qu'est-ce qu'il y a comme valeur aujourd'hui que l'on peut transmettre? Ces personnes qui ont l'impression d'être un peu sur les sables mouvants. Et quand on lit ce texte, on se dit, mais il y a des réponses là. Il y a des réponses très justes et très pertinentes parce que vraies. Alors, on va regarder cela en trois temps. Donc, le premier temps, on va regarder, selon ce texte, quelle est la situation de l'être humain sans Christ. Et il y a trois ou quatre choses qui sont dites. La première chose, au verset 6, c'est que il part d'un temps, parce qu'il part de nous. Donc, nous, ce sont les chrétiens. Et là, il part de ces Romains à qui il s'adresse avant qu'ils soient chrétiens. Donc, il dit, nous étions encore sans force. Nous étions sans force. Comprenons par cela, dans le contexte des Romains, sans force pour arriver à la hauteur de ce que Dieu veut pour nous, pour être sauvés. C'est sans force, ou dans une autre traduction de la Bible, trop faible. Deuxième chose, verset 8, on parle de ce qu'on était avant et on dit qu'on était impie. Je trouve, enfin, selon la traduction, impie ou pécheur, je pense que le mot impie était là, mais je le trouve plus. Bon, en tout cas, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, avant d'être chrétien, on était pécheurs, des gens mauvais. Donc, et la troisième chose, c'est le verset 10, nous étions même ennemis. Ennemis. Et cela dans les deux sens. On peut penser, quand on fait une première lecture, que ce sont les êtres humains qui sont ennemis de Dieu, et c'est vrai. Parce que vous connaissez comme moi le récit biblique, cette analyse de la condition humaine qui dit que les êtres humains se sont détournés de Dieu, donc dès le jardin d'Éden, pour vouloir vivre de façon autonome et sans Dieu. Donc, ils sont en quelque sorte ennemis de Dieu. Mais on peut le voir dans l'autre sens aussi. Et donc j'ai bien vérifié auprès de plusieurs théologiens, j'ai lu plusieurs textes, plusieurs livres pour vérifier que c'était tout à fait juste, que ce n'était pas uniquement les êtres humains qui étaient ennemis, mais c'était Dieu qui était ennemi par rapport à nous. Parce qu'on parle dans ce texte de sa colère, au verset 10, hein, de la colère de Dieu. Et cette colère qui est son opposition totale au mal, le fait qu'il doit donc juger je lis un autre texte qui ajoute à colère le mot avenir, c'est dans 1 Thessaloniciens 1:10, et qui dit Jésus nous délivre de la colère à venir. Et cette colère à venir, c'est le jugement, le juste jugement qui aura lieu à la fin du monde. Donc Dieu, nous sommes ennemis par rapport à Dieu, et dans un sens, Dieu est notre ennemi parce qu'il doit juger le mal. Ce sont des choses où certains, j'ai parlé donc de quelqu'un peut-être dans la forêt amazonienne ou qui a compris qu'il fallait éviter la vengeance des esprits, son intuition n'était pas complètement fausse, parce qu'il savait qu'il n'était pas à la hauteur. Donc il y a un problème, il le sait. Et ce problème, et c'est marrant parce que les anthropologues ont trouvé ça, que même dans les tribus les plus reculées qui passent beaucoup de temps à essayer d'éviter la vengeance des esprits, savent qu'il y a quand même un grand Dieu au-dessus, mais ils disent, moi lui, il est trop loin, donc j'ai à m'occuper de ce qui est proche de moi. Mais ils savent qu'il y a un Dieu, mais ils ne lui prêtent pas attention. Donc voilà notre situation de l'être humain. Sans Christ, le chrétien est donc lucide, il n'a pas d'illusion par rapport à l'humanité. Comme j'ai souvent eu l'occasion de le dire, un chrétien ne peut pas dire de quelqu'un « oui, mais il a un bon fond ». On n'a pas un bon fond, on a un mauvais fond. Ça ne veut pas dire que tous les êtres humains ne font que du mal continuellement, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu, donc on est conscient que le bien peut exister. Mais fondamentalement, il y a quelque chose qui ne va pas, et nous sommes touchés par le péché dans tout ce que l'on fait, acte, parole, pensée, motivation, etc. Donc voilà la situation de l'être humain sans Christ. Deuxième chose, dans ce texte, et qui est très fort, c'est l'amour de Dieu. Là, donc, à partir du verset 6, qui dit que Christ est mort pour les impies. Voilà, c'est ça, c'est au verset 6, le mot impie, je savais qu'il était là. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, Dieu prouve son amour envers nous de deux façons. La première façon, ça arrive, en envoyant son Fils. Il a envoyé son Fils dans ce monde qui est tellement en révolte, en rébellion. Il a donné son Fils, Jean 3,16, hein, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, et ce Fils unique a donné sa vie. Donc on va dire que c'est Dieu prouve son amour envers nous parce qu'il a envoyé et donné son Fils, et Jésus s'est donné à la mort pour nous. Et cet amour, c'est pour des personnes qui ne le méritent pas. Donc, comme Paul raisonne, peut-être que quelqu'un va donner sa vie pour sauver quelqu'un. Donc, de temps en temps, on lit ça dans les journaux, quelqu'un qui est en train de se noyer, et quelqu'un plonge dans la rivière pour essayer de le sauver. Et parfois, il arrive, parfois, il n'arrive pas. Donc, ça peut arriver. Mais, en général, si c'était quelqu'un qui n'avait fait que des vacheries, on va dire, à la personne, peut-être que là, il hésiterait. Mais Dieu prouve son amour, parce qu'il a donné son Fils, alors que nous ne le méritions pas. Donc c'est absolument fort, et c'est pour cela que ça rejoint tout ce qu'on a déjà vu la semaine dernière et la semaine d'avant, c'est que nous pouvons être sûrs que dans toutes nos détresses et nos afflictions, Dieu est avec nous et nous aide parce que il a prouvé son amour envers nous en donnant son Fils. Donc là, je sors du texte qu'on est en train de voir aujourd'hui pour dire, oui, mais cet amour-là va très loin. et donc qui nous touche dans notre vie de tous les jours. Dans toutes nos afflictions et toutes nos détresses, on peut lui faire confiance parce que s'il a pu faire ce qu'il a fait, c'est qu'il ne va pas nous laisser seuls maintenant devant l'abandon, comme nous l'avons lu. Et donc, dans la présidence, je ne vous délaisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Donc, dans Josué chapitre 1. Alors, on a vu la situation de l'être humain sans Christ, on a vu l'amour de Dieu. Maintenant, troisième chose, on va voir la situation du chrétien. Et on va voir deux choses. D'abord, il est donc, comme nous l'avons déjà vu, ce mot, il est justifié, ça c'est le verset 9, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Donc là, ce mot, on en a parlé parce que c'est l'introduction à ces chapitres 5 à 8. Étant donc justifiés par la foi, et tous ces chapitres 5, 6, 7, 8 en découlent, ça veut dire qu'il y a un tribunal, et finalement, nous sommes déclarés justes. Nous sommes déclarés justes. J'ai vu une fois sur Internet une sorte de sketch par rapport à cela, j'ai trouvé très intéressant. C'était comme une sorte de jeu télévisé, bon, où les personnes avançaient à la fin de leur vie pour savoir s'ils méritaient la vie éternelle. Donc ils venaient, on leur posait quelques questions, et puis l'animateur appuyait sur un bouton pour voir si la flèche allait tomber du côté, il passe ou il passe pas. Et chaque fois, ça tombait du côté, ça passe pas, parce que chacun avait péché. Et puis, la quatrième personne arrive dans le spectacle, et il confesse beaucoup de choses, alors que les autres avaient essayé de se dire, mais je suis pas si mauvais que ça. Et il dit, ok, plein de choses que j'ai fait dans ma vie. Et donc, le public commence à huer un petit peu, l'animateur appuie sur le bouton, et la flèche tourne du côté, il est sauvé. Il dit, mais comment ça se passe? Et à ce moment-là, on voit Jésus qui arrive, et qui dit, bah, il est chrétien, je suis mort pour lui. Il est justifié, il est déclaré juste. C'était bon, un sketch, si on veut. Mais c'est ça, être déclaré juste. Et à partir de là, si nous avons été déclarés, nous serons sauvés de la colère de Dieu. Hein? Donc le terme au verset 9, c'est « à plus forte raison ». Un argument, comme on dit, « a fortiori » chaque fois. « À plus forte raison, puisque nous sommes déclarés justes, nous serons sauvés par son sang de la colère à venir ». Ce n'est pas uniquement pour cette vie, c'est pour l'éternité. Et on en a parlé en long et en large à l'étude biblique ces dernières semaines, que le mot « sauver » a un sens passé, présent et futur. Et si nous avons été sauvés, justifiés, nous serons sauvés au moment du jugement dernier. Ce jugement que nous avions déjà vu en lisant Romains 2 il y a quelques mois, donc, je vais relire les versets 5 et 6, Romains 2, 5 et 6. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, ce jugement existe, ce jugement, on aura des comptes à rendre, et c'est par Jésus que nous serons sauvés. Donc, et la deuxième fois dans ce texte, la situation du chrétien, il parle d'être sauvé, c'est au verset 10, où il dit, « Si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés, donc on était ennemis mais maintenant réconciliés, on est devenu amis, donc réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ? Donc, Paul ne développe pas ici, il va le développer un peu plus loin, notamment quand on arrive vers le chapitre 8, mais je comprends avec la suite qu'il dit « Jésus n'est pas resté mort, il est ressuscité ». Donc, et maintenant, il est vivant, et comme il est dit dans les Écritures, il intercède pour nous, il envoie l'Esprit, il promet d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est Timothée qui a choisi le texte. Hein. Moi, je ne fais que retomber sur ce qu'il a dit ce matin dans mes messages. Hein. Donc, cette promesse d'être avec nous, on sera sauvé par sa vie. Donc, il va nous aider à vivre la vie qu'il attend de nous. Ce qui fait que, quand on est devant ce texte, et si... je devais poser la question à l'un ou l'autre d'entre vous. Êtes-vous sauvé? Qu'est-ce que vous répondriez? On est sauvé par la grâce? La réponse est oui, mais pas complètement encore. Pas parce que le salut est incomplet, mais parce que dans notre vécu, nous sommes déjà sauvés par sa grâce. La grâce, hein, je répète, la grâce est tout ce que Dieu nous donne que nous ne méritons pas. Mais nous vivons encore dans notre accord en attendant l'accomplissement total du salut futur, quand on sera auprès du Seigneur. Et c'est pour cela que Paul peut dire dans Philippiens, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Lorsqu'il a commencé, il n'y a pas de doute, il accomplira. Mais il faut que l'on soit patient, parce que nous sommes déjà sauvés, nous lui appartenons, mais nous ne sommes pas encore dans presque la terre promise, on peut presque dire. Hein. Donc on n'est pas encore dans la gloire future. Ça viendra, ça viendra. Donc, le salut prêt à être révélé à la fin des temps, comme Pierre l'écrit dans son livre. Donc, voilà la situation du chrétien. Rien à craindre, parce que nous appartenons au Seigneur. Conclusion, c'est le verset 11. Non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Nous nous glorifions. Le Sommeur dit, nous plaçons désormais notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. On loue Dieu, on le remercie, on essaie d'être reconnaissant pour ce salut. Parce que finalement, une partie de cette vie de disciple transversal, c'est de remercier Dieu pour ce salut, non pas simplement parce qu'il est 10h30, corrigeons cela, 10h45, souvent dans notre église, 10h30 dimanche matin, pendant une heure et demie parce que c'est le culte, mais tout le temps. Pendant qu'on attend sur le quai de la gare, on attend le bus, on rentre dans l'amphi, on est en train de travailler sur son ordinateur, on prend 2 secondes pour dire, ah oui, merci Seigneur, je suis à toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. C'est sa promesse. Donc, on loue le Seigneur pour sa grâce et son amour en Jésus-Christ. Prions. Seigneur, merci parce que tu nous as sauvés dans ta grâce et tu nous gardes jusqu'à l'accomplissement total de ce salut. Merci Seigneur, parce que, comme nous l'avons vu au début de cette prédication, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui vivent dans la crainte des esprits, parce que tu es plus grand, et tu sauves, et tu pardonnes. Tu es plus grand que ce que l'être humain peut faire par lui-même, de façon autonome, et si On peut être déçu par le comportement humain. Nous savons que tu nous aimes quand même jusqu'au point de donner ton Fils. Tu es là dans ta grâce, alors que nous n'avons pas à pratiquer une religion pour essayer à chercher à te plaire. Et tout cela est du solide et on peut le transmettre à nos enfants. Ce sont des vraies valeurs, des vérités profondes que nous pouvons vivre tout au long de notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Seigneur, merci pour cette réalité. Fais en sorte, Seigneur, que nous puissions nous émerveiller en pensant à ton immense amour envers nous. Amen.